une très courte présentation. Je crois que vous, il y a parmi vous qui connaissent déjà Père Philippe Molac, qui est le responsable, on peut dire, pour l'écuménisme, donc pour le dialogue entre les églises. Et la présentation d'aujourd'hui, comme je vous ai annoncé sur le site de la paroisse, sera faite sur Saint Grégoire de Nazianz. Je vais laisser Père Philippe Molac commencer sa présentation. Ça va durer, je crois, une trentaine de minutes peut-être. Et après, à la fin, si vous avez des minima en question, pour ne pas trop prolonger, 5 minutes, 10 minutes, vous pouvez nous adresser des questions strictement sur le sujet qu'on va développer aujourd'hui, la théologie de Saint-Grégoire de Nazianz. Donc je donne la parole au Père Philippe Molac.
Merci Père de m'accueillir aujourd'hui dans cette église. J'appelle, merci à vous d'accepter d'écouter encore quelques minutes à un moment où on commence à avoir faim. Ce qui m'a amené à travailler ce grand personnage et de vous dire en quelques mots, comme vient de le dire le Père Roger, quels sont les points forts de la théologie que je retiens. Alors, évidemment, je suis un peu gêné parce que c'est assez rare qu'un théologien occidental ose prendre la parole, surtout sur un saint qui est particulièrement important dans la tradition orthodoxe, qu'est Saint Grégoire le théologien, puisque je crois que c'est ainsi qu'il s'appelle dans votre tradition. Deuxième péché, je ne parle pas le roumain. Je connais trois mots, au moins, Lumina, Bucuria, Dragoste. C'est un beau programme.
Oui.
Et qui de fait nous fait peut-être entrer dans cette personne de Saint Grégoire. Alors, d'abord, en quelques minutes, pourquoi un occidental français, de surcroît breton, c'est-à-dire très loin et de Toulouse et de la Roumanie, s'est intéressé à Saint Grégoire le théologien? J'étais dans une paroisse à Versailles, pas besoin de préciser où se trouve Versailles, je pense, et je devais accompagner un groupe de chrétiens catholiques qui voulaient approfondir leur foi. Et ils s'interrogeaient beaucoup sur la question du péché originel. Grave question, surtout dans la théologie occidentale. Et au bout de 2 ans, fatigué de ne voir que le péché originel, je me suis demandé s'il n'y avait pas des pères de l'Église d'Orient qui avaient pu penser les questions d'une manière moins dramatique. Et un jour, l'Esprit Saint, travaillant toujours notre cœur, m'a fait découvrir un poème de Grégoire le théologien. Et j'ai été complètement séduit par la beauté de cet auteur. Et j'ai voulu continuer plus loin. Alors j'ai tellement continué plus loin que j'ai fait mon mémoire de maîtrise de théologie sur la question du salut chez Grégoire de Nazianz. Et finalement, j'ai continué et j'ai fait ma thèse de théologie sur la question du cheminement spirituel chez Grégoire le théologien. Ce que j'ai découvert et qu'il me semble important pour moi occidental de dire sur Grégoire, c'est d'abord évidemment, mais ça vous le savez mieux que moi, le théologien de la lumière. Cela m'a fasciné. Dans le discours 38, qu'il prononce à Constantinople au moment du baptême, plus exactement de l'épiphanie. Il fait un développement en disant que finalement Dieu est la lumière suprême inaccessible, incroyable, et que les anges sont comme une deuxième lumière venant de la lumière de Dieu, Trinité, et que finalement l'être humain, dans son nous, c'est-à-dire, je traduis ça plutôt moi par son intellect, sa puissance de réflexion, reçoit une part, une étincelle, dit Grégoire, de la lumière de Dieu. J'ai trouvé ça tout à fait dynamisant, en me disant finalement, contrairement à saint Augustin, que les pères cappadociens, et en particulier Grégoire, posaient que dans tout être humain, il y a par l'intelligence la capacité de découvrir cet amour, cette lumière plutôt, de Dieu. Je crois que aujourd'hui, dans un monde où la foi chrétienne ne va peut-être plus de soi, du moins en France, il est important de rappeler à toute personne que nous sommes créés par le Seigneur et que dans notre capacité de réfléchir, il y a une étincelle de cette gloire de la lumière de Dieu. Mais plus encore, ce qui m'a fasciné dans la théologie de saint Grégoire, c'est la place qu'il donne et dont la tradition orientale est redevable, la place qu'il donne au mystère de la transfiguration. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, ce matin, je célébrais la messe chez nos sœurs Clarisse, avenue de Saint-Exupéry. D'ailleurs, je vous invite à prier pour elles parce que leur mère abbesse vient de décéder à 60 ans après un cancer et où elle a vécu d'ailleurs de grandes souffrances. Donc je vous partage cette intention de prière, sœur Claire-Marie. Et donc la liturgie aujourd'hui chez nous, deuxième dimanche de carême, l'évangile est celui de la transfiguration dans la version de saint Matthieu. Je crois que j'ai découvert comment cette lumière de Dieu, elle rayonne à ce moment-là dans le Christ, et que c'est dans son humanité que resplendit sa divinité. Et c'est un point qui me paraît capital dans toutes les prédications que Grégoire a données, surtout au moment où il était archevêque de Constantinople, très peu de temps d'ailleurs, de 379, vraisemblablement est-il arrivé au mois de mars, avril, puisque son grand ami Basile de Césarée vient de mourir le 2 janvier, et vous savez qu'on est à une période très difficile de l'histoire de l'Église, avec la crise arienne, ceux qui contestent que le Fils de Dieu soit de même nature que le Père, même substance. Nous l'avons redit ensemble là au credo, consubstantiel, homoousion. Et puis la querelle aussi du fait que certains nient, ne veulent pas que l'Esprit Saint soit Dieu. On est en pleine querelle. Et à Constantinople, à l'époque, il y a tellement d'hérésies et de chapelles qu'on ne sait plus très bien qui est orthodoxe. Alors heureusement, il y a l'empereur Théodose qui vient d'arriver au pouvoir, qui lui est orthodoxe. Basile meurt et il a l'idée d'aller récupérer Grégoire qui faisait une sorte de retraite monastique depuis 4 ans à Séleucie et qu'il installe, donc, ou qu'il fait arriver à Constantinople. Et pendant les 2 ans, même pas les 18 mois où Grégoire est à Constantinople, il ne cesse de prêcher la vérité de cet amour et de cette lumière de Dieu qui vient envahir nos cœurs. Et c'est là qu'il dit que le Fils est le transfiguré dans l'humanité qu'il porte, hein, se dévoile à la transfiguration la divinité. Alors je trouve ça très dynamisant. Et c'est de là, je crois, que vient la théologie de la divinisation qui est très propre à l'Orient et qui je dois le dire, a un côté plus dynamisant que du côté occidental où on parle du salut. Et ce matin, j'ai commencé mon homélie en disant ça, en disant, comme je savais que j'allais parler de Grégoire, ça m'a aidé à préparer l'homélie de ce matin, et disant, finalement, en Occident, on dit « Jésus nous sauve ». Ah oui, mais première question que la personne censée va poser, ben, il nous sauve de quoi ? Du péché. Obligé de faire toute une catéchèse. Et tandis que si je dis, dans ce mystère de la transfiguration, on voit que l'homme, dans le Christ, est appelé à être divinisé, ben, j'ai plus besoin de donner l'explication. Ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul. C'est plus facile à comprendre. Et j'ai deux personnes, à la fin de la messe, ce matin, qui sont venues me dire « Ah oui, évidemment, c'est beaucoup plus clair. » Donc je crois que voilà un point sur lequel Grégoire peut aujourd'hui encore être source d'espérance dans un monde occidental qui a du mal à retrouver cette beauté de l'homme créé à l'image de Dieu. Et pour moi, ce temps de la transfiguration et me semble très important. Autre chose que Grégoire m'a aidé à découvrir, c'est le lien qu'il fait entre justement ce moment de la transfiguration, où il voit le visage du Christ illuminé, et puis le moment que j'appelle celui de la défiguration, c'est-à-dire à Gethsémani, où là, les trois mêmes témoins d'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean, que l'on retrouve à la Transfiguration et à Gethsémani, sont témoins du même Christ, mais qui cette fois-ci n'est plus irradié par la lumière divine, mais il est stigmatisé par le combat d'un homme qui librement choisit d'affronter la mort. Et je crois que Grégoire a su mettre tout à fait en lien ce même visage de Jésus transfiguré sur la montagne traditionnellement du Tabor et ce même visage de Jésus stigmatisé par les affres de la souffrance à Gethsémani. Et c'est pour ça que j'ai intitulé, c'est cette raison pour laquelle j'ai intitulé ma thèse « Douleur et transfiguration ». Et que quelque part, ce que Jésus a vécu, c'est ce que nous vivons tous. Je vous remercie de m'avoir invité à partager non seulement cette liturgie avec la grande anaphore de Saint Basile, dans lequel je trouve une source de prière et de contemplation extraordinaire. Et d'ailleurs, je me demande si, pour une part, Saint Grégoire de Nazianze n'a pas travaillé avec Saint Basile dans cette anaphore. En tout cas, je sais que Grégoire a aussi travaillé avec Saint Basile pour les préceptes monastiques du grand ascéticone et du petit ascéticone, qui sont autant de Basile que de Grégoire. Enfin bon, peu importe. Donc dans cette belle liturgie, et puis l'invitation, vous m'avez invité, Père Emmanuel, à venir vous accompagner pour ce rite dont je ne sais pas le nom, mais qui m'a beaucoup touché, parce que je crois que j'ai expérimenté là combien à travers ce rite de la communion de ceux qui nous ont quittés, mais qui partagent cette vie mystérieuse dans la lumière du Seigneur, il y a quelque chose de douleur et de transfiguration. À la fois la douleur du deuil qui nous frappe, mais aussi de savoir par notre foi que ceux et celles que nous avons aimés, qui nous aiment encore d'une manière mystérieuse, que nous ne voyons pas, mais dont la foi sait, elle, nous dire qu'ils sont là, nous aident à être transfigurés avec eux. Je crois que j'ai peut-être là mieux touché du doigt ce qu'est ce lien entre douleur et transfiguration que, voyez, Grégoire pose entre le visage rayonnant du Christ au Tabor et le visage défiguré du Christ à Gethsémani. Et c'est un peu notre vie, c'est aussi la vie des saints, quand je contemple la vie des saints, qui passe par cette alternative entre transfiguration, défiguration, et qui, dans la défiguration, ne perdent pas le cap de la transfiguration, et qui, dans la transfiguration, savent aussi qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont aussi défigurés. Cela m'aide aussi à rencontrer les personnes souffrantes, les personnes malades sur les lits d'hôpitaux, avec, je dirais, l'esprit de savoir qu'au-delà de la défiguration, transparaît quelque chose de la vérité de l'homme et de la vérité de l'homme réconcilié dans le Christ. Je dis quelquefois, Grégoire nous aide à ne pas imaginer qu'on peut être éternellement jeune, mais que dans le visage d'une personne âgée, dans le visage d'une personne qui souffre, est-ce qu'on est capable d'y voir là aussi un trait de la miséricorde de Dieu, comme à Gethsémani ou sur la croix. La dernière chose, enfin, parce que je ne veux pas être trop long avec nos corps aussi ont besoin d'être nourris. Bon. Ce qui me frappe chez Grégoire, c'est non seulement le combat pour la vérité et pour lequel finalement, moins que Chrysostome, mais tout de même, il a dû renoncer à sa charge d'archevêque de Constantinople parce qu'il était visiblement fatigué des querelles dans l'Église et qu'il était un peu déçu que la formule du credo sur l'Esprit Saint n'était pas aussi bien écrite que lui aurait voulu qu'elle fût écrite. Et puis pour d'autres raisons aussi, peut-être aussi c'est une raison qu'on voit moins dans sa démission de Constantinople. Beaucoup disent « c'était un esprit un peu chagrin, il n'était pas content ». Bon, je crois aussi que c'était un homme qui avait très peur de la vaine gloire. Comme finalement la divinité de l'Esprit-Saint avait été consacrée par le Concile de Constantinople, et que dans le fond, il pensait que son travail était achevé, il a préféré quitter la charge, me semble-t-il, par humilité et volonté de ne pas tomber dans la vaine gloire. Ça, c'est un peu mon opinion personnelle, je vous la partage. Mais un combattant de la vérité, de la Trinité, et un combattant de l'unité. Car je crois que ce qui a fait sans doute le plus souffrir Grégoire, c'est cette incapacité des hommes à Constantinople à pouvoir être unis autour du mystère de la beauté de la Trinité et de l'incarnation du Christ et de sa glorification sur la croix. Trop de factions entourait la ville, était plutôt dans la ville de Constantinople, il en a souffert, et même s'il a réussi, avec l'aide de l'empereur, il est vrai, à ramener pour une part l'orthodoxie dans la ville de Constantinople, il en a été meurtri, n'a pas été épargné, il le dit dans son poème autobiographique, il a subi des lapidations, il a subi une tentative de meurtre, il a subi un secrétaire qu'on lui avait mis dans les pattes et qui finalement se révèle comme être un traître. Je crois que tous les coups bas de la nature humaine, il a pu les avoir. Ça l'a tout de même assez atteint pour que, là aussi, il ait démissionné, un peu victime peut-être de son espérance pour l'unité de l'Église. Voilà ce que j'avais envie de vous partager tout simplement autour de ce que j'ai découvert sur la figure de Grégoire, de Saint Grégoire, le théologien que la tradition orientale, Dieu merci, connaît beaucoup mieux, hein, qui est l'un des très grands. Je ne sais pas si l'icône qui est du pas du faune, de la reproduction du faune qui est là à droite, c'est Grégoire, le théologien Grégoire de Nice. J'ai une hésitation.
C'est le théologien, c'est le premier à notre droite.
Oui, c'est ça.
Oui.
Parce que j'ai vu Grégoire Nice. Mais... Bon. En tout cas, vous m'aviez bien placé. Donc, je crois que c'est Monseigneur Hilarion Alfeyev qui maintenant est le responsable des relations œcuméniques dans le patriarcat de Moscou, mais qui a lui aussi beaucoup travaillé Grégoire, dont la thèse a été traduite en français et dont il a intitulé sa thèse « Grégoire, le chantre de la lumière ». J'ai été un petit peu jaloux, je le reconnais, parce que je me dis « Tiens, là, j'aurais dû intituler ma thèse « Le chantre de la lumière », mais dans le fond, c'est quand même mieux que ce soit quelqu'un de la tradition orthodoxe qui est vraiment de l'intérieur et qui pouvait le mieux, plus à même de donner ce beau titre que je reprends à mon compte maintenant, en pensant que douleur et transfiguration peut s'adapter finalement à tout le monde, mais que Grégoire nous donne quand même une clé à travers ce chemin de lumière et ce combat lui-même qu'il a vécu et qui authentifie ce qu'il dit. On n'a pas affaire à un personnage qui dit quelque chose d'un côté et fait autre chose de l'autre. Au contraire, si Grégoire a souffert de l'unité, je crois qu'au moins il a manifesté dans sa vie une belle unité entre la Trinité qu'il adore et qu'il aime et pour laquelle il combat jusqu'au prix quelquefois de ce que j'appelle le martyr existentiel et que son grand ami et disciple Chrysostome vivra véritablement puisqu'il mourra sur la route de l'exil. Je ne sais pas s'il y a des questions.
S'il y a des questions. Mihaela.
Saint Grégoire de Nazianze, s'il a vécu aussi lui-même, nous aussi, la douleur, on doit pleurer pour notre péché, mais aussi on doit chercher la divinisation de notre âme, la joie, la lumière. Quelle est la proportion que Saint Grégoire de Nazianze nous recommande d'accorder dans notre vie à la douleur, à la pleure, à pleurer de péché et de notre côté à la joie et à la lumière?
Je ne sais pas s'il est question de proportion. Est-ce que c'est 50%, 50%? Je ne sais pas. En tout cas, quand on lit ses lettres, on voit que c'est un homme qui vibre. C'est quand même un sentimental, un passionné même. Donc c'est un homme qui vibre. Et alors quand ça va mal, vraiment tout va mal. Tout va mal. Il y a une lettre qu'il écrit à Théodore de Tyane dans les années 379, sans doute au moment où il arrive à Constantinople, très simplement. Alors, cette lettre, il broie du noir. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il raconte « Mes parents de chair sont morts, Basile est mort, je ne sais plus qui est mort, Et alors il finit en disant « Finalement, plus personne ne défend la foi, moi-même je suis dans le brouillard, je ne sais plus où j'en suis, le Christ d'ailleurs, et alors il dit « Je suis comme les apôtres dans le bateau sur la tempête, je ne sais plus du tout où j'en suis. » Oui. Donc il y a des moments où on sent qu'il est complètement désemparé. Alors c'est assez, je dirais, c'est assez... encourageant pour nous, en se disant un homme comme ça qui ose écrire que il n'en peut plus et que même il finit sa lettre en disant finalement seule solution à tous mes maux, la mort. Voilà. Il attend la mort en disant comme ça ce sera terminé. Bon. Et puis par d'autres moments, alors quand les choses vont bien, alors c'est l'homme qui est capable de s'exalter, de décrire les prières les plus magnifiques et de se comparer pour le coup à Isaïe. Il n'hésite pas à se dire « Je suis comme Isaïe dans la gloire du temple en train d'écouter les chérubins. » Alors, peut-être, je ne crois pas que c'était un cyclotimique, mais enfin, c'était quelqu'un qui, effectivement, vibrait beaucoup aux événements. Et Vivez un petit peu ce que saint Paul nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez heureux avec ceux qui sont heureux. C'est tout à fait ça. On empathie avec les événements. Et alors, je vous dis, quand vraiment tout va mal, tout va vraiment très mal. Hein, et quand au contraire, quelque chose qui le fait rayonner, alors là, ça, c'est l'exultation. Alors, quelle proportion, je ne peux pas vous dire. En tout cas, je pense tout de même qu'il lui fallait une vraie dose, si je peux dire, de foi et de prière, parce que ça, c'est quelque chose que je peux dire, parce qu'il n'a pas eu une vie facile. Peut-être était-il plus dans la douleur que la transfiguration. Parce que, d'abord, il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. Il voulait être moine. Et on l'a toujours rattrapé pour être pasteur. Son père est venu le chercher pour régler des affaires à Nazianze. L'empereur Théodose vient le chercher pour aller à Constantinople. Une fois qu'il quitte Constantinople, il se dit « je vais être tranquille », mais pas du tout. Il y a encore des problèmes à Nazianze et on le récupère. Bon. Donc, en fait, il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, c'est d'être être moine. Mais justement, ce qui est intéressant, et j'en parlais vendredi au chanoine de la Grâce, dans l'Aube, dans la belle abbaye de la Grâce, il m'avait demandé, je parlais du sacerdoce chez Saint Grégoire et Saint Chrysostome. Bien, ce sont deux personnes qui, parce qu'ils ont eu une expérience monastique très forte, vivent comme des moines leur vie sacerdotale d'évêque. C'est bien que ça, même ça ne va pas du tout, parce qu'il y en a qui leur disent, mais enfin, quand même, pour des évêques, vous vivez dans la pauvreté, votre palais, c'est ça, vous n'avez personne pour vous servir, vous couchez à même le sol, vous vous nourrissez très peu, et oui, parce qu'ils avaient voulu, ils étaient un peu scandalisés de la manière dont certains évêques au IVe siècle vivaient, et ils voulaient montrer, eux, qu'ils suivaient le Christ vraiment en tout, et qu'il fallait aussi que l'évêque ait une vie particulièrement ascétique, si bien qu'ils font, c'est à eux que l'on doit la tradition, hein, que la vie monastique vienne soutenir, hein, la vie sacerdotale. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense, question de proportion, je ne sais pas, mais en tout cas, que les deux soient liés l'un à l'autre, oui, certainement. C'est ce que je dis, il vit ce qu'il dit.
S'il n'y a pas de questions. Je veux finir avec, pour préciser un peu ceux qui avaient participé aujourd'hui à la liturgie. Donc, tous les dimanches du Grand Carême, donc tous les dimanches avec les Pâques, avant Pâques, on officie une autre liturgie, c'est ce que disait Père Philippe, c'est la liturgie de Saint Basile le Grand, l'ami de Saint Grégoire le théologien, qui est une liturgie plus ample. Hein. Vous avez vu, il y a des prières plus longues que dans les liturgies habituelles qu'on fait tous les dimanches, les autres dimanches de l'année. Donc il faut savoir que aussi le dimanche prochain, le quatrième dimanche du carême, la cinquième, on va officier la liturgie de Saint Basile, qui peut-être a été influencée, a été travaillée par Saint Grégoire de Nazianze aussi. Peut-être.
Bon. Enfin, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Grégoire Palamas aussi doit beaucoup à Grégoire de Nazianze.
Oui, Saint Grégoire Palamas qu'on fait aujourd'hui, donc c'est la deuxième dimanche du carême. On finit par vous conseillant de chercher les livres, les choses que Saint Grégoire de Nazianze a écrit et d'essayer de lire. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'une introduction, et c'est à vous de découvrir, c'est à vous de lire, c'est à vous de vous faire une image et de partager vraiment ce que Saint Grégoire de Nazianze a vécu, a écrit, a partagé aux autres. Bon Père, merci beaucoup pour votre intervention. On a préparé un petit agape, donc on vous est invité tous à partager cet agape. On va faire une petite prière avant et après on vous invite à partager l'agape. Merci beaucoup Père. Merci. On ira là-bas, on va dire notre Père, après on va commencer.